enflammée retenait sa marche crispée. Elle tanguait avec une majesté maladroite qui la rendait impressionnante. Les enfants murmurèrent. « Elle nous a repérés, tu crois ? Allez, on crie pour l'effrayer !»« Ne sois pas idiot, elle ne craint rien ni personne. C'est plutôt toi qui devrais paniquer. »«
Je n'ai pas peur !»«
Si tu fais quelque chose qui ne lui plaît pas, elle te zigouillera, comme les autres. »«
Je n'ai pas peur, je te dis. »
Ces maris, pourtant, ils étaient plus forts et plus costauds que toi.
Même pas peur.
Prudents, ils laissèrent Marie Morestier s'éloigner, évitant toute apostrophe ou autre mauvaise plaisanterie. 20 ans plus tôt, après 2 procès, la justice avait prononcé un non-lieu et sorti Marie Morestier de la prison où elle avait séjourné en détention préventive. À Saint-Sorlin, la majorité des villageois considéraient Marie Morestier comme innocente, sauf les enfants, qui préféraient croiser une meurtrière afin de rendre leur vie dangereuse et merveilleuse. Or, la raison pour laquelle les adultes estimaient Marie Morestier non coupable n'était guère plus rationnelle. Les villageois refusaient l'idée de côtoyer un assassin en liberté, de lui donner le bonjour, de partager leur rue, leur commerce, leur église avec une tueuse. Pour leur tranquillité, ils avaient besoin qu'elle fût honnête comme eux. Personne ici ne l'aimait vraiment, car la dame, fière, réservée, capable de reparties cinglantes, ne provoquait ni la sympathie ni l'affection, mais chacun se réjouissait de la notoriété qu'elle avait apportée à l'agglomération. L'empoisonneuse de Saint-Sorlin, la diabolique du Buget, la messaline de Saint-Sorlin en Buget. Pendant quelques saisons, ces titres fracassants ouvrirent les éditions des journaux, radios et télévisions. Tant de bruit avait attiré les curieux. Même si l'on jugeait cet intérêt malsain, le nom de Saint-Sorlin s'était retrouvé sur le devant de la scène et cette soudaine renommée avait incité les automobilistes à quitter l'autoroute pour venir boire un verre au café, grignoter un plat à l'auberge, acheter du pain à la boulangerie, feuilleter la presse en espérant apercevoir Marie Morestier. Les badauds s'étonnaient qu'un si joli village, paisible, semé de lavoirs recueillant l'eau des sources, dont les murs en pierre se couvraient au beau jour de roses ou d'églantines par milliers, qu'une commune blottie le long d'un bras du Rhône aux foisonnées truites et brochets, pût abriter une âme si noire. Quelle paradoxale publicité! Si ce bourg de 1000 têtes avait possédé un syndicat d'initiative, il n'aurait pu inventer mieux que Marie Morestier pour sa promotion. D'ailleurs, un jour, le maire, ravi de cet afflux touristique, n'avait-il pas, en une bouffée d'enthousiasme, déclaré à Marie Morestier qu'il était son fan numéro 1. Inutile de préciser que la dame avait douché sa ferveur d'un regard froid, appuyé par un silence hostile. Son panier d'osier au bras, Marie Morestier passa devant l'auberge sans jeter un œil à l'intérieur, car elle savait que derrière les fenêtres à petits carreaux verdâtres, les clients collaient leur nez aux vitres pour la scruter.
« C'est la tueuse !»«
Quelle a l'air hautain, plus snob qu'un pot de chambre. Quand tu penses que plusieurs hommes sont morts pour ça, elle a été blanchie. » « Tu n'es blanchi que lorsque tu es sale, mon cher. Le patron du restaurant à qui j'essayais de tirer les verres du nez tout à l'heure m'a dit qu'il n'y avait pas de fumée sans feu. » Si les habitants la quittaient, ils laissaient néanmoins planer le doute, car il était hors de question de décourager les visiteurs en les privant de cette attraction. Sans se faire prier, avec discrétion, ils indiquaient aux voyageurs le chemin qu'empruntait Marie Morestier, son emploi du temps, ses habitudes, sa maison au sommet de la côte. Et quand on leur demandait s'ils la croyaient coupable, ils répondaient par un prudent « Qui sait ?» Du reste, ils n'étaient pas les seuls à cultiver le mystère. Régulièrement, des émissions de télévision retraçaient le destin de Marie Morestier en soulignant ses ambiguïtés et ses zones d'ombre. Quoique les journalistes fussent obligés de rapporter la décision de justice, sinon l'avocat de Marie Morestier les astreignait à payer de rudes amendes, il suggérait que le non-lieu reposait plus sur la non-présentation de preuves concrètes que sur la démonstration de l'innocence. 10 mètres plus bas, devant l'enseigne du tapissier, Marie Morestier s'arrêta et vérifia que son pire ennemi s'y trouvait. Bien vu. Raymond Poussin, dos à sa vitrine, pérorait ses échantillons de tissu à la main à l'intention d'un couple qui lui avait confié un fauteuil à réparer. « Cet abruti est aussi gros que l'étoupe dont il bourre les dossiers et aussi laid que le crin qu'il utilise, » songea-t-elle.